Libre Antenne, votre magazine de société sur Radio Brest.
Bonjour à tous. Il y a ceux qui parlent du monde d'après, ceux qui ont des projets pour cet après, et puis ceux qui le construisent dès aujourd'hui. Eh bien, nos invités sont de ceux-là. Fabrice Desjours, créateur du concept de forêt gourmande, Bressan, et qui à Dicon plante depuis 10 ans des arbres fruitiers et autres plantes comestibles par centaines. Dans son sillage, dans ses studios, merci d'être venu, Marie-Noëlle Lavigne et Audrey Ravel de l'association Chalonnaise pour une transition écologique et citoyenne. Également membre de l'association Forêt Gourmande, convaincu, donc des urbains convertis aux vertus des plantes. À vous tous d'abord, merci d'être venus et bonjour également.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors Fabrice Desjours, d'abord cette question quasiment de définition, une forêt gourmande, c'est le concept que vous portez par rapport à une forêt naturelle, c'est un lieu où tout se mange ou presque, c'est quoi exactement?
Oui, alors ça va avoir l'allure d'un jardin qui est boisé et dans lequel on va introduire énormément d'espèces. Ça va dépendre des milieux, mais on va associer des arbres, des lianes, des herbacées, des buissons, où on va se promener dans ces paysages qui ont été reconstitués par l'humain, qui sont très esthétiques également, et on va faire des cueillettes, on va manger toutes sortes de produits issus du jardin forêt.
D'accord, donc on note trois éléments clés, la nature, l'humain et l'esthétique aussi, le bien-vivre. On va voir que c'est vraiment un concept parce que ça n'existe pas dans la nature, ces forêts gourmandes.
Ça existe sous les tropiques depuis des milliers d'années, ça n'a pas forcément été très bien compris par les premiers Européens. En tout cas, on commence à avoir des vagues de plantations un petit peu partout, notamment dans d'autres pays également, et puis en France... Des projets qui émergent de partout.
Ouais. Alors forcément, vous nous interpellez, sous les tropiques, il fait chaud en ce moment, mais quand même, comment ça peut se transposer en milieu tempéré comme le nôtre? On va le voir au cours de cette émission. Juste une chose, Fabrice Desjours, quelle est la formation qui vous a amené à ce concept et puis aujourd'hui ce travail? Parce que je crois que c'est quasiment du plein temps pour vous que de développer cette idée.
C'est du plein temps, tout à fait. J'ai débuté par des études de biologie, après j'étais infirmier pendant 13 ans et je me suis formé à l'agroforesterie sous les tropiques.
Vous avez voyagé, vous êtes allé voir ce qui se faisait ailleurs,
fait, hein, ouais.
Et vous nous apportez ce savoir maintenant ici sur Radio Brest, avec à vos côtés, on l'a dit, Marie-Noëlle et Audrey. Alors comment vous, Chalonnaise, Chalonnais aussi derrière vous, puisque vous êtes un groupe conséquent, vous avez entendu parler de ce concept? Peut-être Audrey d'abord.
C'est par rapport à une conférence que Fabrice Desjours nous a donnée dans l'association Chalonnaise pour la transition écologique et citoyenne.
Oui.
Et donc, de ce fait, on nous a demandé à la fin de s'inscrire si ça nous intéressait. Et on a formé un groupe, Forêt Gourmande Chalonnaise, pour pouvoir discuter et trouver un terrain et de pouvoir se mettre en lien avec différentes associations.
D'accord. Donc, ce groupe aujourd'hui, c'est combien de personnes sur Chalon qui sont un peu de près ou de loin impliquées dans l'idée?
Entre 30 et 40.
Ah oui.
Mais il y a une 12 à 15 qui travaillent en permanence.
Voilà. Et un quartier en particulier ciblé, Marie-Noëlle, hein. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans l'idée. C'est sérieusement avancé, votre affaire?
Oui. C'est bien avancé. En fait, c'est une forêt urbaine.
Oui, alors j'allais vous poser la question, une forêt fut-elle gourmande? Est-ce que ça fonctionne en ville?
Eh bien, c'est ce qu'on voudrait faire, parce que, bon, c'est vrai que ça paraît plus simple de la planter à la campagne,
oui,
la forêt.
Ouais.
C'est vrai que ça paraît plus naturel, quoi. Mais notre objectif, c'est bien de la planter, de l'implanter en milieu urbain, pour que la population y soit associée, et que cette forêt, elle remplisse une fonction aussi vis-à-vis d'une population urbaine.
Voilà, une fonction sociale.
Oui, une fonction sociale.
Je crois que vous n'avez pas attendu le confinement, c'était 2018, hein, cette affaire-là, déjà, je crois, sur Chalon. Hein.
L'idée est née en fin 2018, oui.
Et dites donc, ce qui vient de se passer, avec le confinement, les urbains qui n'en pouvaient plus, qui voulaient à tout prix voir du vert, ça vous donne drôlement raison.
Oui.
Vous avez été précurseur, Audrey. C'est-à-dire que là, clairement, cette idée pour la ville, c'est un vrai bol d'oxygène.
Par rapport au confinement, mais aussi par rapport au réchauffement climatique, on a fait des tests auprès du côté de Prés Saint-Jean.
Oui, donc c'est un quartier de Chalon-sur-Saône.
Un quartier de Chalon-sur-Saône. On a cherché à savoir si ça leur intéresserait d'avoir une forêt gourmande proche de chez eux. Et on a fait ça l'été dernier au mois d'août. Et franchement, il faisait vraiment très, très chaud dans ce quartier.
Voilà, donc ça a donné du sens à ce projet. Fabrice, vous aviez imaginé au départ que ça pouvait avoir une déclinaison en milieu urbain ?
Ah oui, on peut tout à fait faire des jardins-forêts donc sur des toutes petites surfaces. On peut commencer sur 300, 400 mètres carrés et le faire sur des très grands territoires à la campagne. On peut le faire à partir de n'importe quel système, n'importe quel paysage de départ. Ça peut être un pré, ça peut être une friche, ça peut être un espace urbain, ça peut être un verger qu'on va densifier et ça peut être à partir d'une forêt également. Donc on peut absolument tout imaginer comme point de départ.
Forêt, qui dit forêt dit arbre, mais pas que. C'est-à-dire que vous, votre concept, d'ailleurs, vous utilisez aussi le mot jardin, hein. Il n'y a pas que des arbres.
Tout à fait, c'est quelque chose de très très modulable avec une palette végétale, on parle de 7000 espèces alimentaires et si on est en système urbain, on aura des canopées qui vont être basses, donc les arbres dominants feront maximum 3-4 mètres de haut, pas
oui,
plus.
Oui, la canopée pour les non-spécialistes, c'est la partie du sommet des arbres.
Oui, tout à fait, c'est vraiment ce qui donne la structure, l'architecture au jardin. Oui.
D'accord. Alors, 4000 espèces, moi je connais haricots, petits pois, et puis après ça s'arrête vite. Comment vous faites pour arriver à un chiffre pareil ?
Parce qu'on va chercher aussi dans d'autres flores de climat tempéré, ça peut être en Chine, ça peut être en Amérique du Nord, mais il faut savoir que tous nos fruitiers viennent d'Asie centrale, les pommiers, les abricotiers, les pêchers par exemple.
Vous voulez dire aujourd'hui, quand on a un abricotier en France, il vient pas originairement
d'Europe. Ouais. Tout à fait. Ouais. Dans nos potagers, on a au moins 60% des légumes qui viennent des quatre coins de la planète également. C'était permis par les migrations humaines, par les échanges, par le commerce, par les transferts et l'intérêt qu'on avait pour tel ou tel type de plante. En tout cas, pour vous donner un exemple, on a l'asiminier qui est un arbre qui est rustique à moins 20, moins 25 degrés, qui va donner des sortes de mangues. On a des arbres dont on va manger le feuillage, on va consommer des fleurs, des sirops de sève. Des graines, toutes sortes de produits. Ouais.
Oui, donc c'est extraordinaire. Est-ce que vous, Marie-Noëlle et Audrey, vous imaginez cette richesse disponible quand vous avez lancé un petit peu le projet sur Chalon-sur-Saône ? C'est quand même étonnant, on découvre un monde là.
Ah oui, complètement. Notre connaissance de la nature était quand même beaucoup plus limitée par rapport à cet usage alimentaire. Hein. On n'avait pas cette connaissance-là. Mais bon, c'est vrai que les gens, ils sont habitués maintenant à trouver des produits très exotiques dans les magasins de toute nature. Mais souvent, ils ont perdu le contact avec ce qu'ils peuvent trouver sur place.
Oui, et, tout simplement. Oui.
C'est vrai, on trouve des produits très exotiques un peu partout sous plastique. Mais on peut aussi s'alimenter d'une manière plus saine et plus simple. En allant chercher des choses sur place.
Sur place. Est-ce que, Fabrice Desjoux, vous pouvez mettre des choses comme dans la boucle, comme le pissenlit qu'on connaît bien chez nous, que nos grands-mères mangeaient volontiers, un peu moins aujourd'hui ?
Oui, voilà, c'est ça qui est intéressant, les jardins forêts, on a entre le sauvage et le domestiqué, on peut avoir des plantes sauvages qui vont être des plantes alimentaires, on peut avoir des choses plus étonnantes comme des pacaniers, des arbres qui vont faire des noix de pécan, ou du gingembre rustique, du gingembre que vous allez cultiver en plein air, dans la Bresse, à Chalon, qui va tenir à moins 15, moins 18 degrés, ouais.
D'accord.
Ça peut être des associations avec des vignes résistantes aux maladies, etc.
Et ça veut dire aussi que c'est un travail de recherche. La nature, elle nécessite d'être connue. C'est-à-dire que ce concept aussi, voilà, il demande du travail. Ça vient pas comme ça.
Ça vient pas comme ça. Il y a une conception en amont. Il y a effectivement une connaissance à avoir, mais ça peut être structuré comme un jeu finalement, surtout dans des espaces qui sont communautaires, qui sont collectifs. On le voit aussi sur un projet qu'on mène avec Pirouette Cacahuète à Dijon. Dans un quartier qui est dit quartier prioritaire, ça fonctionne très bien parce que ce sont des espaces où toutes les générations se retrouvent, des espaces où on va vivre dedans, on a des aménagements juste pour se reposer, pour faire de la cueillette, pour voir les enfants qui s'amusent ou qui cuisinent les produits du jardin forêt.
D'accord. Et donc ça veut dire qu'il faut gérer. Ça peut pas être une forêt, un jardin qu'on va laisser comme ça pousser tout seul. Et un vrai aspect de gestion. Je vois Audrey qui de la tête, qui acquiesce. Il faut se répartir des rôles. C'est un peu ce que vous faites à Chalon.
Alors justement, dans notre association, dans notre groupe Forêt Gourmande, on a plusieurs personnalités qui sont intéressées par différentes propositions, préparation de terrain, abris de jardin, outils, communication, relationnel, pédagogie, immobilier.
Vous avez votre tableau Excel avec les missions.
Et avec aussi toutes les associations. Mais je voulais rebondir aussi par rapport à ce que Patrice Desjours a dit par rapport à Chenauve, Pirouette, Cacahuète. J'ai vu, par exemple, qu'il proposait l'arbre à manger des feuilles, mais il peut y en avoir une autre végétation qui lui ressemble. Donc, il faut vraiment de l'information. Et on a besoin de quelqu'un qui connaît toutes ces plantes.
Oui, vous n'alliez pas vous intoxiquer.
Voilà, et que nous, on puisse aussi, sur le terrain, indiquer que telle plante est consommable, comme Pirouette Cacahuète le fait, et que tout soit bien indiqué et tout soit bien informé. Et informé aussi, surtout. Et ça, c'est important d'avoir des groupes qui nous permettent de pouvoir avoir de la formation.
Oui, Marie-Noël, vous voulez aller dans ce sens. Il y a un savoir-faire.
Un savoir-faire. Donc, on a une équipe où il y a des compétences assez diversifiées et assez variées. Et donc, quand on va construire ce projet sur Chalon, on va essayer d'y associer les habitants du quartier en priorité, les enfants des écoles. On va essayer de travailler avec les écoles, avec les enseignants des deux lycées qui sont.
Oui, bien sûr, puisque c'est une matière d'enseignement.
Voilà. Et donc, de manière à ce que les gens se l'approprient petit à petit et en fassent leur jardin.
Oui, c'est Voltaire qui disait cultiver votre jardin, mais au propre comme au figuré. Ouais. Il y a l'aspect formation, Fabrice Desjours, c'est-à-dire que vous avez quand même un vécu solide, une solide expérience. Il faut transmettre aussi.
Oui, alors on transmet dans l'association de différentes manières. Ça peut être, on faisait des visites commentées, mais là il y a trop de demandes, donc on va passer sur notre modèle. Il y a des vidéos qui sont en ligne, par exemple. Il y a des publications, il y a des fiches de plantes également qu'on peut retrouver. Un ouvrage qui a été écrit. L'idée, c'est vraiment des formations également qui peuvent être suivies, mais c'est vraiment de diffuser au maximum le message et d'essaimer cette pratique partout.
Oui. Vous faites allusion à un site internet qui est bien fait. Je suis allé voir pour préparer cette émission. C'est Forêt Gourmande, on peut dire .fr, c'est votre site et qui est une porte d'entrée vers les multiples projets. Celui de Chalon en fait partie, sur les plantes qu'il faut connaître, les formations. Par contre, j'étais frappé. Toutes les formations, c'est marqué complet, complet, complet. Ça marche très fort de ce côté-là.
Ça marche très, très bien, mais ça correspond aussi à un besoin. On se rend compte, un besoin des arbres, besoin de retravailler avec le vivant et puis de créer des paysages qui sont régénérés. C'est aussi des espaces thérapeutiques pour les personnes. On a de plus en plus de projets par rapport à des gens qui étaient en stress ou en situation de violence. Et ce sont des paysages qui sont très intéressants aussi par rapport à ça, justement, à la santé humaine.
Un urbain stressé peut trouver dans un jardin gourmand, dans une forêt gourmande, un lieu où il s'apaise, où il se reconnecte. Oui,
c'est complètement. C'est des espaces très intéressants parce qu'on va produire de la nourriture et les oiseaux vont venir, les insectes également. C'est des espaces de rencontre, des espaces de couleurs, de formes. C'est vraiment des espaces créatifs.
On va dire. Oui, et vous nous ramenez à ce sens, ce mot-clé de l'esthétique, qui est une esthétique aussi philosophique, c'est-à-dire c'est se sentir bien. Donc, à partir de quelque chose qui peut paraître comme ça terre à terre, racine en terre, finalement, on s'élève.
C'est un point de départ pour autre chose, pour une civilisation de l'arbre et du partage. Vraiment quelque chose totalement différent. Ouais.
Eh bien, merci de nous emmener dans ces canopées. Je vous propose de faire ici une petite pause. On se retrouve tout de suite après sur un aspect un peu plus peut-être terre à terre, mais non moins, pas plus négligeable, qui est l'aspect économique, collecte. Comment vous faites pour gérer tout ça avec ce délicieux concept de forêt de jardin gourmand.
La Libre Antenne, une émission bi-hebdomadaire.
Une libre antenne nourrissante aujourd'hui puisque nous parlons du concept qui se décline d'ailleurs aussi bien en ville qu'à la campagne de forêt de jardin gourmand avec Fabrice Desjours qui est le créateur de ce concept et qui le vulgarise auprès de personnes comme Marie-Noël Lavigne, Audrey Ravel de l'association Chalonnaise pour une transition écologique. Mesdames, vous nous avez expliqué dans la première partie de cette émission que sur Chalon, eh bien, il y a un label, enfin un terrain qui a reçu un label de la la municipalité, un projet labellisé « À vous d'inventer la ville ». Il a été validé pour créer un jardin comme ça dans un quartier des Pré-Saint-Jean, un quartier urbain de Châlons, un jardin gourmand où les uns les autres vont pouvoir se retrouver, cultiver quelque part, récolter des fruits. Justement, Fabrice Desjours, quand on a une forêt, un jardin gourmand, on obtient donc une récolte. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est un enjeu économique, ces fruits, ces légumes?
Ah oui, complètement. On reçoit en formation des personnes qui ont un but, on va dire, commercial, de production commerciale à partir de ces espèces de jardins-forêt. Donc, on imagine des jardins qui sont conçus d'une autre manière, où c'est facile de sortir les produits, un cheminement qui est bien pensé, comment on fait intervenir de la main-d'œuvre, par exemple. Mais pour vous donner un exemple concret, on peut produire des sortes de mangues, voilà, rustiques. On peut aussi cultiver de la baie aux cinq saveurs. La baie est sucrée, salée, acide, amère, astringente. C'est quelque chose qu'on va trouver en pharmacie ou en boutique diététique parce que c'est quelque chose qui est adaptogène, qui est très médicinal. On le fait venir actuellement du fin fond de l'Asie. On peut le produire en France sans aucun problème avec des phénomènes d'ombrage comme on les trouve par exemple en jardin de forêt.
Et c'est pas que théorique, vous le faites déjà quelque part. Dans toute la France, il y a des laboratoires vivants comme ça.
Ouais. Et pour donner d'autres exemples ailleurs aussi en Europe, par exemple, il y a un jardin forêt qui est couplé à un restaurant. Aux Pays-Bas, l'intégralité de la carte provient d'un jardin-forêt et c'est quelque chose qui est réservé des mois à l'avance. L'État hollandais, d'ailleurs, s'intéresse énormément à ces projets, on va dire, commerciaux et vont établir 2 hectares de jardin-forêt commercial payé comme ça, mis en place par l'État hollandais.
Vous nous prouvez que écologie et économie peuvent aller ensemble.
Complètement. De toute façon, c'est quelque chose qu'il faut... Voilà, tout est interconnecté, tout est relié. On peut créer un nouveau monde d'une façon joyeuse et efficace. En utilisant des ressources.
Efficacité et joie, Marie-Noël, Audrey, c'est des choses qui ressortent dans votre groupe. Qu'est-ce qui mobilise le plus ceux qui viennent avec vous? Ils sont peut-être fleurs bleues, fleurs vertes, écolo, ou il y en a aussi qui disent, économiquement, c'est pas rien.
C'est très diversifié dans le groupe, donc c'est ça qui est vraiment très intéressant. Mais il est certain que le problème économique, c'est surtout Marie-Noël qui nous l'a interpellé dernièrement par rapport à une formation qu'elle a faite.
Oui, alors Marie-Noëlle Dudoit.
Non, parce que en fait, la forêt gourmande qui va s'implanter dans le quartier des Pré-Saint-Jean, elle aura pas de économiquement, elle est pas destinée à rapporter de l'argent. On n'en tirera pas de revenus puisque les produits seront mis à la disposition de ceux qui viendront les cueillir.
Mais on pourra les manger, c'est toujours ça de moins à acheter.
On pourra les manger. Mmh. Mais on peut envisager par la suite d'autres développements à cette forêt nourricière. On peut envisager de faire une pépinière et de vendre des produits de la pépinière. On peut envisager un certain nombre d'autres développements. Mais c'est vrai que en ce qui concerne la forêt jardin des Pré-Saint-Jean, elle aura pas de... On n'en tirera pas un rapport économique. On en tirera un rapport de bien-être et de lien social.
Oui, votre priorité, elle est sociale bien-être et de bien vivre ensemble. Parce que, du coup, dans votre association, vous dites 30, 40 membres, il doit y avoir des gens très différents.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a des jeunes?
Oui.
Donc, ok, bon, voilà. Vous êtes jeune aussi, hein. Je le dis pour ceux qui n'ont pas l'image. Donc, c'est ça aussi. Ça permet, disons, de fédérer Fabrice, tout un univers autour.
C'est très fédérateur. C'est comme une célébration de la vie, complètement. Et c'est comme une boule à facettes finalement dans lesquelles on va rentrer dedans parce qu'on a envie de faire venir les enfants. On a envie d'avoir quelque chose qui est paysager. On a envie de faire de la cueillette. On veut une nouvelle cuisine derrière, par exemple.
Oui. Est-ce que ça implique un mode alimentaire différent quand même? Oui, c'est un peu subliminal. C'est-à-dire dessous, il y a l'idée que peut-être on peut devenir végane sans se priver.
On peut devenir végane, mais pas que. On a une assiette qui est beaucoup plus diversifiée. Donc on va conserver exactement les espèces qu'on connaît, qui sont des espèces annuelles ou vivaces. Ça peut être les légumes, ça peut être les céréales, ça peut être les arbres. Mais on va enrichir cette assiette avec plein d'autres plantes, plein d'autres apports qui proviennent quand même dans l'immense majorité de plantes qui sont pérennes, qui vont vivre longtemps. Donc on n'a pas besoin chaque année de refaire le même travail que nous imposent les plantes annuelles. On a un peu d'annuelles, mais pas beaucoup.
Et donc ça peut combiner des espèces qu'on connaît bien ici, les espèces fruitières, pommiers, poiriers et autres, et puis des espèces qu'on connaît beaucoup moins, mais que vous dites tout à fait implantables localement.
Oui, complètement. C'est vraiment un assemblage comme ça qui est riche, qui est complexe, qui permet des récoltes quasiment toute l'année. Après, on va pouvoir avoir aussi des transformations et proposer une gastronomie qui est vraiment très savoureuse, qui est très riche. C'est un départ, c'est vraiment un univers qui s'ouvre comme ça.
Est-ce que vous en aviez conscience quand, il y a une bonne dizaine d'années, vous vous êtes lancé, vous avez été infirmier, vous avez eu d'autres vies, même si vous êtes encore jeune visiblement, mais et vous avez eu le sentiment que c'était une fenêtre d'un seul coup qui ouvrait sur plein d'univers, vous le découvrez au fur et à mesure peut-être?
Oui, mais je l'avais expérimenté sous les tropiques. J'avais travaillé pendant une année dans un dispensaire de brousse dans les Comores, et mes collègues se promenaient dans ces agroforêts qui se ressemblaient à des forêts finalement tropicales primaires. C'était pas du tout le cas. Tout avait été reconstruit par l'humain. Donc des arbres, des palmiers, des lianes, tout était nourricier. Elles se promenaient là-dedans. Elles chantaient toute la journée. Elles faisaient de la cueillette de feuilles d'arbres, par exemple, une cuisine absolument délicieuse derrière, des fruits énormes. Il y avait une facilité de vie par rapport à ça. On passait beaucoup de temps avec les enfants, et même s'ils étaient polyhandicapés, ils avaient vraiment des gros problèmes, ils étaient super heureux, c'était inoubliable.
Et on voit que vous avez utilisé le féminin, c'est souvent par les femmes que viennent ce genre de choses. Plus de femmes que d'hommes dans le projet à Chalon-sur-Saône, Audrey, Marie-Noël, ça c'est une petite question au passage.
On a des hommes aussi.
Oui,
ouais, on a des hommes, des jeunes.
En fait.
Et donc pour les collectes, les tâches, je dirais, lourdes ou autres, de toute façon, la répartition se fera comme ça, hein, sans préjugés.
Mais c'est-à-dire que on n'en est pas encore au stade de la collecte.
Alors justement, mais, où en êtes-vous? Donc c'est la municipalité a donné son feu vert.
La municipalité.
On a un quartier, les Prés Saint-Jean. Vous
voilà.
Avez déjà l'espace?
Non, parce que en fait, il y a un problème un peu au Prés Saint-Jean, c'est que il y a des problèmes de pollution.
Oui, il y a une voie de circulation assez importante.
Et donc, non, c'était des pollutions industrielles.
Ah, d'accord. C'est un héritage du passé.
Oui, c'est un héritage du passé, et ce qui fait que c'était un peu compliqué de trouver le terrain, et on est toujours un peu dans l'attente du terrain.
Ah, d'accord. Le terrain n'est pas clairement défini.
Non, le terrain n'est pas très clairement défini.
On connaît un peu le quartier. Il y a un lac. Ça pourrait pas être là autour. Non, c'est pas forcément évident.
A priori, il y a beaucoup de pollution de la nappe phréatique autour du lac.
Fabrice, il y a pas des plantes qui les polluent? Mais ça va prendre du temps.
Il y a des plantes qui dépolluent. Alors, on travaille avec une chercheuse du CNRS qui va faire des études justement sur la migration dans c'est de la 3D nourricière, hein, finalement, qu'on fait.
Oula.
Comment, on passe de la 2D à la 3D, c'est ça qui est intéressant. Comment, les plantes qu'on va cultiver, est-ce que les polluants vont migrer, vont rester par exemple dans les racines, on va pouvoir continuer à manger le feuillage ou les fruits, etc. Mais c'est vraiment toute des recherches encore à continuer. L'idéal pour ce type de projet, c'est quand même de partir d'un sol qui est non pollué. Après, le sol pollué, on peut s'en servir pour d'une régénération, reforestation aussi pour les autres êtres vivants, ou pour après avoir des arbres semenciers qui vont permettre d'avoir des pépinières de reforestation pour toute la France.
Ouais, Audrey Ravel, le projet de Chalon, sur une échelle de 1 à 10, il en est où? Vous êtes à moitié du parcours, vous allez aboutir bientôt, ça fait à peu près 2 années que vous y travaillez, c'est bien parti, on en est où?
Pour le groupe, on est tous partants. Ça, c'est sûr.
L'humain est là.
On a même des personnes qui se forment, qui auront la capacité d'être des éducateurs, des formateurs. On a l'humain.
Bon, mais c'est le foncier maintenant, hein.
C'est le foncier. Et
voilà.
Ça, c'est pas nous.
Voilà. Et on se rend compte, oui, que ça renvoie à d'autres choses. Il y a un vécu, hein, qu'il faut assumer. C'est pas toujours évident. Par contre, nous sommes sur Radio Brest, donc on peut dire, Fabrice Desjours, et là, on est très fiers que ce projet, il est né en Brest. C'est une forêt gourmande qu'on peut peut-être visiter, découvrir. Eh ben, elle se trouve à Dicon, par exemple.
À Dicon, tout à fait. Le jardin expérimental, il ne se visite pas. Hein, il se visite à travers les formations, ou alors pour des groupes très spécifiques, les médias qui peuvent passer, ou des scientifiques, ou des porteurs de projets collectifs. En tout cas, le projet est bressant, et mon grand-père était né à Colnan, donc je suis moi-même issu de la Bresse.
Ah, voilà, vous pouvez pas le nier. Donc, une idée qui, par contre, a une valeur universelle. Vous avez parlé de vos expériences en Afrique, par exemple, en Inde. Donc, on peut dire que ce concept, il trouve écho partout, et il y a peut-être d'autres personnes qui le développent ailleurs, qui sont en lien avec vous.
Oui, complètement. En France ou à l'étranger. Alors, c'est intéressant pour l'aspect culturel. ces agroforêts, ces jardins-forêts existaient en Europe il y a très longtemps. Ils ont été balayés par l'Empire romain, hein, mais ce sont les ethnologues, les anthropologues qui nous expliquent ces
donc
systèmes.
Donc nos ancêtres, entre guillemets, les Gaulois, comme on disait, avaient peut-être cette culture-là qu'on a oubliée.
Avaient sans aucun doute des forêts nourricières dans le sens premier du terme, ouais.
D'accord.
C'est un complexe de production alimentaire.
Donc il faut réacquérir hein, ces éléments-là.
Ouais.
Vous, il y a une dizaine d'années, vous étiez quand même précurseur. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. J'ai l'impression que là, il y a une explosion d'intérêt par rapport à ce que vous proposez.
Oui, complètement. Mais ça s'est aussi propagé par la permaculture au sens large, à l'agroécologie, à cet éveil justement de la population. On ne peut pas continuer de la même manière. Il y a des solutions. On peut tous travailler ensemble. Ce qu'on appelle l'intelligence collective, ça, c'est vraiment l'avenir. Et ça se travaille tous ensemble, ouais.
Est-ce qu'il y a des animaux inclus dans votre projet? Est-ce que les animaux ont leur place?
Oui, complètement. Alors, on a par exemple des poules, une vieille variété d'ailleurs, Bressane, qui est la gauloise noire et qui est une poule ancestrale parce qu'elle, c'est pas une poule lourde, elle vole et elle est libre dans le système. En fait, c'est une poule de forêt et si elle a un prédateur, elle va voler à 4-6 mètres de haut, aller se percher.
Ouais. Et tant pis pour le chat du quartier.
Ou pour le renard, etc.
Ok. Audrey et Marie-Noël, à l'heure qu'il est, de quoi avez-vous le plus besoin là, à l'instant T? C'est le terrain, c'est ça?
Oui, c'est très clairement le terrain. Et puis, de pouvoir démarrer un peu tout l'aspect concertation avec les habitants auquel on souhaite procéder avant d'implanter cette forêt pour que les habitants puissent donner leur mot et puissent participer
activement
dès la mise en place.
Alors, on arrive au terme de cette émission Libre Antenne. On sent qu'on aurait pu prolonger largement. Donc, le but, sans doute, de réveiller la curiosité de nos auditeurs est atteint. Comment fait-on pour vous contacter à Chalon-sur-Saône d'abord?
Avec le Facebook, Forêt Gourmande Chalon.
D'accord. Okay. Fabrice Desjours, comment fait-on pour se renseigner plus? Dicon, on n'y va pas comme ça, hein, j'ai compris.
Non,
il faut s'inscrire.
C'est ça.
Pour
des formations, oui. C'est surtout regarder sur le site internet où vous aurez déjà des documents en open source, hein, libre d'accès comme ça, et puis la possibilité après de nous envoyer des messages, par exemple.
Alors, le site à retenir, rappelez-nous, comment s'appelle-t-il?
Forêtgourmande.fr.
Voilà, forêtgourmande.fr. Et qu'est-ce qui se passe là dans les tout prochains jours pour vous? Vous avez une échéance importante, une formation, un projet sur lequel vous travaillez? Vous sortez du studio de Radio Brest. Qu'allez-vous faire pour les forêts gourmandes?
On a plein de projets ailleurs en France, dans Lyon notamment, en Côte d'Or. Il y en a à Lyon aussi.
Dites-donc. Et puis la poussée écologique, écologiste des dernières élections municipales, vous avez l'impression que c'est vraiment une donnée qui va compter pour l'avenir?
Ouais, mais qui est tout à fait normal et qui est aussi le reflet d'une époque. Hein, ça change. Il y a un éveil des consciences et on le constate actuellement. Ouais.
Voilà. Donc rendez-vous pris pour l'avenir. Merci, mesdames,
merci,
messieurs, d'être
merci.
Venus nous en parler. On vous réinvitera pour voir comment ça pousse et puis forcément on y pensera au déjeuner à midi. Bonne matinée à tous.
Retrouvez cette émission sur radiobrest.com.